Théologie biblique, Père Philippe, 3 novembre 1983 à Saint-Joseph.
Mais ce qui est intéressant dans l'analyse que fera saint Thomas, c'est la manière d'exister de Dieu, la manière de vivre de Dieu. Alors il ne parle ni de la sainteté ni de la gloire. C'est là, on voit aussi la différence entre la théologie biblique et la théologie scientifique. En théologie biblique, la gloire prend une très grande place. La sainteté prend une très grande place. En théologie biblique et en théologie mystique. Tandis que en théologie scientifique, on n'en parle pas. Vous comprenez bien que ce n'est pas un oubli, ça demain. Quand même connaissant l'écriture, comme quelqu'un du Moyen-Âge la connaissait, c'est-à-dire beaucoup mieux que nous. Mais on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une analyse. Or, la sainteté et la gloire ne sont pas, au sens strict, des modalités d'être. C'est plus complexe. Alors, on les retrouverait du côté de la théologie de l'Église, parce que ça se retrouve du côté d'une théologie de l'économie divine. En économie divine, on comprendrait que toute l'économie de Dieu nous conduit à la sainteté, que toute l'économie divine implique le point de vue de la gloire, mais pas directement en théologie scientifique. Ça, on le verra progressivement, je ne m'arrête pas là-dessus, mais c'est intéressant à noter. Donc on avait vu la dernière fois, si vous vous souvenez bien, ce passage si merveilleux dans la Genèse, chapitre 18, le chêne de Mambré, l'apparition de Mambré, la première annonciation, c'est la première annonciation dans l'ordre génétique. Et la très sainte Trinité est présente. Pas seulement un envoyé de Dieu, mais la très sainte Trinité est présente. Selon l'interprétation de tous les pères de l'Église, hein, parce que selon l'interprétation des exégètes modernes, on ne peut pas le dire. Je suis tout à fait d'accord. Parce que leur méthode n'est pas exhaustive par rapport à la parole de Dieu. Tandis que l'interprétation des pères de l'Église qui font partie de la tradition, c'est une théologie. Ce n'est pas la même chose du tout, vous voyez. Il faut reconnaître l'intérêt de l'exégèse moderne, mais reconnaître la limite de l'exégèse moderne. Et comprendre que, selon leur méthode, il y a des quantités de choses qui échappent. Donc on ne peut jamais s'arrêter à l'exégèse. Heureusement. Parce que ce n'est pas suffisant. La parole de Dieu a une richesse bien plus grande que cela. Alors, la parole de Dieu, elle commande l'exégèse, elle commande la théologie scientifique, elle commande la théologie mystique. Et donc, arrêtons-nous à la théologie mystique. Hein. Il vaut mieux avoir le bon biftec, hein, dernier, que de s'arrêter tout simplement à des petites miettes intéressantes, mais qui ne donnent pas beaucoup. Selon la théologie, donc la grande tradition, je dois dire que Yahvé apparu à Abraham, c'est Yahvé qui est apparu. Et c'est Yahvé qui apparaît comme 1 et 3. C'est donc un mystère de la très sainte Trinité qui apparaît d'une manière énigmatique, de façon cachée, voilée. C'est comme ça que les pères de l'Église l'ont compris, et c'est comme ça que nous le retrouvons dans les icônes, les trois. Et c'est très important de comprendre ça, parce que ça fait comprendre que l'annonciation, à la différence d'une simple apparition, il y a eu des apparitions avant. La vocation d'Abraham n'implique pas au sens strict une annonciation. C'est curieux. L'annonciation nous met en présence d'un mystère de fécondité. Et je crois que c'est ça la clé. C'est un mystère de fécondité. Et ce mystère de fécondité va se révéler à travers le mystère de la fécondité de Dieu. Tandis que la vocation d'Abraham implique bien un mystère de fécondité en promesse. Je multiplierai ta descendance. C'est la bénédiction qui implique. La bénédiction est toujours liée à la fécondité dans l'Écriture, toujours. Mais ce n'est pas explicite. C'est quelque chose de lointain. Alors, c'est une vocation qui demande à Abraham l'obéissance et de se préparer. Tandis que au chêne de Mamré, c'est immédiat. Je reviendrai l'année prochaine. Et à ce moment-là, tu auras un fils. Alors, c'est le mystère de la fécondité qui est explicité par le point de vue de la fécondité divine présente. Toute fécondité provient de Dieu. Et en dernier lieu, toute fécondité s'enracine dans la fécondité de Dieu. Même quand Dieu bénit comme créateur, il ne faut pas l'oublier, hein, ce Dieu qui bénit comme créateur, ce Dieu un comme créateur, il est le Dieu trine. C'est pour ça que déjà la fécondité au niveau naturel est comme une préfiguration lointaine du mystère de la très sainte Trinité. Ça, nous pouvons le dire, hein, parce que nous savons que Dieu est trois. Parce que nous savons qu'il y a le mystère de la très sainte Trinité qui a la fécondité en Dieu. Donc je peux dire que toute fécondité provient de Dieu. Comme on dira que toute paternité provient de Dieu, je peux dire que toute fécondité provient de Dieu et provient de la fécondité de Dieu. Et donc toute fécondité est comme une image lointaine, pas immédiate. Je ne peux pas, à partir de la fécondité du grain de blé, dire Dieu est trois. Je ne peux pas. Mais une fois que je sais que Dieu est trois, je peux dire que cette fécondité du grain de blé est liée à la fécondité divine. Vous voyez, comprenez bien le raisonnement, hein, parce que autrement, on fait quelque chose de tout à fait faux. Je ne peux pas, à partir du grain de blé et de la fécondité du grain de blé, dire il y a la très sainte Trinité. Autrement, le philosophe pourrait le découvrir. Le philosophe ne peut pas découvrir la fécondité de Dieu. Donc je ne peux pas, à partir de la fécondité du grain de blé, la fécondité de la vie, qui provient de Dieu, qui provient du Créateur, qui implique une bénédiction de Dieu, je ne peux pas à partir de là dire il y a la fécondité en Dieu. Mais une fois que je sais qu'il y a un mystère de Trinité en Dieu, je peux dire que cette fécondité en Dieu qui m'est révélée éclaire toute fécondité et donne une lumière sur toute fécondité. Exactement comme je dis que la paternité du Père, la paternité est source de toutes les autres paternités. Alors, cette révélation au chêne de Mamré, des trois et un, qui se fait à Abraham, Sarah indirectement, par la médiation d'Abraham. Elle voudrait bien ne pas avoir de médiateur. C'est rare, la médiation d'un homme. D'habitude, les médiatrices, c'est les femmes. Mais vous voyez la médiation de l'homme, c'est très intéressant de voir ça. Parce qu'il y aurait quelque chose de très intéressant à voir dans la médiation de ce que représente la paternité ici. Et Abraham joue le rôle de médiateur pour Sarah. C'est lui qui commande. Demande où est Sarah, ta femme, elle est dans la tente. Il dit, je reviendrai chez toi à pareille date, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente, et elle était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux. Alors, Sarah rit en elle-même en disant, oh, très bien, cette espèce de petite réflexion, de méditation de Sarah en face du mystère de la révélation de cette fécondité et du mystère de la très sainte Trinité. Très étonnant. Alors voyez, ce qui serait intéressant, c'est de mettre en parallèle l'annonciation faite à Marie. Ça, toute la tradition l'a fait. Et je crois que chaque fois que nous verrons une annonciation dans l'Ancien Testament, enrichissons le mystère de l'annonciation faite à Marie, décrite par Luc, provenant de Jean et de Marie, la source immédiate, enrichissons cette vision-là de toutes ces visions antécédentes. Et ici, c'est particulièrement important. Si la première annonciation se fait par les trois, en raison du mystère de la fécondité, vous comprenez bien que c'est difficile de dire que Marie, qui a une foi plus grande que celle d'Abraham, est plus pure que celle d'Abraham. Abraham n'est pas immaculé. Abraham a la foi. Il a une foi de père. Donc il a une foi très forte, très grande, mais il n'a pas une foi contemplative, au sens tout à fait fort. Il a une foi de père. Et on le voit bien, c'est une foi liée à l'obéissance, mais ici, à cette annonciation, on peut dire qu'il y a quand même quelque chose de contemplatif, mais l'attitude d'Abraham n'est pas tellement contemplative. Hein. Il se précipite à toute vitesse, on voit très très bien, il faut tout de suite tuer le veau gras, c'est très très beau. Au point de vue liturgique, c'est magnifique. N'est-ce pas ? C'est un liturgiste, Abraham. Mais ce n'est pas un contemplatif, au sens propre. On le voit bien, il veut immédiatement faire quelque chose de bien. Alors, dès que vous voulez faire quelque chose de bien, vous n'êtes pas contemplatif. Hein. Le contemplatif, c'est celui qui accepte de ne rien faire et d'être celui qui reçoit. Qui reçoit le mystère de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu, en comprenant que recevoir la parole de Dieu est source d'une efficacité beaucoup plus grande pour après. C'est pas nier l'efficacité, c'est pas nier du tout le travail, mais c'est accepter qu'il y a un moment où on se remet totalement à Dieu. Alors vous ne voyez pas ça chez Abraham, tandis que vous voyez ça tout de suite chez Marie. Alors, ce qui est très très beau, vous voyez, c'est de comprendre que si cette annonciation est faite à Abraham en impliquant la révélation des trois, ça nous donne un argument très fort au point de vue théologique pour dire que Marie, à l'annonciation, a vécu des trois. Elle a compris que c'était le don du Fils. Elle a compris d'une façon toute nouvelle le mystère de la paternité. Et elle a compris de façon symbolique, caché, c'est bien évident, mais d'une façon réelle, l'action de l'Esprit Saint. Autrement dit, le mystère de l'Annonciation, tel qu'il a été vécu par Marie et tel qu'il nous est montré dans Saint-Luc, implique que Marie ait eu vraiment dans sa foi la conscience divine que c'était une maternité en union avec la fécondité divine, qu'elle était mère du Fils de Dieu. Je dis ça, c'est parce que ça a été très discuté au point de vue exégétique ces derniers temps, très discuté, que l'exégète qui se sert de l'Ancien Testament ne puisse pas le dire. C'est possible. Quoique, si je me sers de l'Ancien Testament, je dois mettre en parallèle ce chapitre 18 de la Genèse et Luc. Et quand je mets en parallèle le chapitre 18 de la Genèse et Luc, je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose dans la Genèse qui me montre les trois. Or, Abraham demeure imparfait comparativement à Marie. Donc je n'ai pas le droit de soustraire quelque chose qui existe dans l'ordre de l'imparfait par rapport à celle qui vit l'apparition, qui vit le mystère de l'Annonciation de la manière la plus parfaite. Oui, donc ça, même au point de vue exégétique. Puisque l'exégèse consiste à se servir de tout l'Ancien Testament pour mieux comprendre le Nouveau. Autrement, je ne suis pas un bon exégète. Je dois me servir de tout l'Ancien Testament pour essayer de mieux comprendre le Nouveau. Mais au-delà de l'exégèse, il y a la tradition théologique, et la tradition théologique montre bien qu'il y a révélation des trois à Abraham, et donc révélation des trois à Marie. Et la première révélation de la très sainte Trinité, elle se fait à Marie, et énigmatiquement à Abraham. C'est un lien qui existe entre Marie et Abraham. Il y a un lien très fort, c'est le lien le plus fort qui soit. Tous les deux sont les choisis pour être ceux qui sont la bonne terre pour recevoir le secret de Dieu, le secret de tous les secrets. Alors c'est important là aussi de souligner que dans l'Ancien Testament c'est Abraham, l'homme. Normalement, selon la culture du peuple d'Israël, c'est l'homme qui a l'autorité. La femme, dans les moments très très difficiles, dans les moments périlleux, on le verra. Alors la femme reprend de l'autorité, toujours. Tandis que la femme est à l'intérieur de la maison. L'autorité, l'exercice de l'autorité, c'est l'homme. Ce qui est très extraordinaire pour l'Annonciation, c'est que l'Annonciation se fait à Marie, et non pas à Joseph. Là, c'est révolutionnaire, hein, en comprenant bien. C'est révolutionnaire dans le sens que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et que Marie doit porter ce secret indépendamment de Joseph. Et que Marie dit son fiat indépendamment de Joseph. Ça, c'est la femme forte. D'habitude, la femme s'appuie sur son mari pour dire oui. Et puis là, elle ne s'appuie pas sur son mari, elle dit oui tout de suite, toute seule. Un oui, un fiat qui a une importance mondiale. Une importance qui transforme le lien d'alliance de Dieu et du monde. L'alliance de Dieu et des hommes. Et c'est Marie qui fait cela. Et il n'y a pas d'autre témoin. Elle est seule. Uniquement ça fait comprendre la place de Marie dans l'économie divine. Vous voyez, si on réfléchit vraiment là-dessus. On comprend la place d'Abraham dans l'économie divine par rapport au peuple d'Israël. Ça, il est le point de départ de l'Alliance. Et Marie est le point de départ de la nouvelle Alliance, une Alliance qui dépasse le peuple d'Israël. Une Alliance qui est pour toute l'humanité. Elle est au point de départ. Ça, c'est Dieu qui a voulu comme ça. C'est la femme qui a péché la première, c'est la femme qui doit être la première dans l'ordre de la reprise de tout. Et donc c'est Marie. Joseph devient relatif à Marie à partir de l'Annonciation. Avant, c'était Marie qui était relative à Joseph. Elle était fiancée à Joseph. Tandis qu'à partir de l'Annonciation, et on le sent très bien, c'est Joseph qui devient relatif à Marie. Et c'est ce que dit l'ange. Prends Marie chez toi, pour être ta fille, pour être ton épouse. Parce qu'elle est la mère de Dieu. Donc si elle est la mère de Dieu, elle passe devant Joseph. Joseph restera avec l'autorité temporelle, mais Marie a l'autorité spirituelle. C'est ça qui est très très mystérieux. Et Marie a l'autorité spirituelle sur Joseph. Parce qu'elle est la mère de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que Marie a une autorité spirituelle dans toute l'Église, parce qu'elle est la mère de Dieu. Et Joseph est relatif à Marie. Alors ceci fait comprendre, vous voyez, que c'est très important pour la structure de l'Église. Et c'est pour ça que c'est important de regarder l'alliance avec Abraham, parce que l'alliance avec Abraham nous fait mieux saisir l'alliance avec Marie. Ça nous fait mieux saisir le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Et je dirais même que Sarah rit. Oui, ça fait qu'elle est un peu en dehors de la situation, quoi. Parce que si elle avait été pleinement dans la situation, Sarah n'aurait pas ri. Elle aurait été grave. Il y aurait eu quelque chose. Non, elle rit. C'est impossible. Il y a quelque chose qui ne marche plus. C'est très très net. Sarah rit en elle-même. Elle rit en elle-même, elle ne le montre pas. Elle est respectueuse, Sarah, elle est bien élevée. Il avait dit, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Alors, vous voyez, Sarah s'est cachée du côté du fort externe. Mais du côté du fort interne, il y avait tout vu. On peut rien cacher. Il avait dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je puis enfanter alors que moi je suis devenue vieille? Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Elle reste bien en dehors. Hein. C'est extraordinaire comme attitude. Car elle avait peur. Mais il dit non, tu as ri. Alors, c'est très curieux, hein. Ça, ce serait très intéressant au point de vue théologique, de voir pourquoi ce rire sceptique. Hein, c'est un petit rire sceptique. C'est un petit rire sceptique, il me met en dehors. Non, c'est impossible tout ça. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, ça disparaît complètement avec la nouvelle alliance, hein, avec Marie. Joseph n'est pas là. Joseph n'aurait pas eu le rire sceptique. Mais Joseph n'est pas là. Il faut que tout s'accomplisse uniquement entre Marie et l'ange Gabriel. Et par l'ange Gabriel, avec la très sainte Trinité. Il faut que Marie soit seule. Pour mieux faire comprendre comment, de fait, elle est seule. Vous voyez, là, nous comprenons, nous, tout le, tout l'aspect du mystère de l'Immaculée de Marie. Elle est seule. Elle transcende d'une manière très unique. Tandis qu'au contraire ici, nous voyons que Sarah reste à cause du péché d'Ève, hein, conséquence du péché d'Ève. Ève a cru trop vite, eh bien, Sarah emporte le poids. Alors, elle croit plus difficilement. Ève a cru trop vite au mensonge du serpent. Elle a été séduite, séducta est. Elle a été séduite. Elle a cru à la parole du serpent. Et Marie, elle a de la peine. Je veux dire, Sarah, elle a de la peine d'adhérer. Alors elle rit. Vous savez que c'est une position qu'on a normalement. Quand on ne comprend pas, qu'on n'a pas envie d'entrer, on ironise. Et Sarah ironise. Ironise pour elle-même. Alors, grâce à l'ironie, on se met en dehors. Pas besoin d'engagement. Sarah ne s'engage pas. Abraham s'engage. Tandis que Sarah ne s'engage pas. Il y a eu un moment entre les deux. Elle a eu peur. Alors, on ironise pour ne pas s'engager. C'est curieux, ça. C'est très, très intéressant de regarder les rapports entre l'homme et la femme. Hein. Il y a une théologie de la femme qu'on doit découvrir dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et il y a une théologie de la femme très nette. Péché d'Ève, le rire de Sarah. Cette espèce de besoin de garder son autonomie. Hein. C'est toi qui t'engages, c'est pas moi. Toi, tu es naïf. Tu sais, il dira un peu toujours comme ça. La femme dira toujours un peu, l'homme il est toujours un peu naïf. Hein. Il manque un peu de réalisme. Alors, elle est persuadée d'avoir beaucoup plus de réalisme. Elle en a moins dans le surnaturel. Parce qu'elle se met à l'abri de son propre jugement. Elle ne s'engage pas. C'est très très beau, Sarah. On regarde toujours Abraham, c'est très bien, mais il est intéressant de regarder l'attitude de Sarah. Et on voit bien, Dieu la regarde, puisque Dieu dit « Oui, Sarah, ta femme !» Dieu veut que Sarah soit là. Dieu n'a pas dit par l'ange Gabriel « Où est Joseph, ton fiancé ?» Pas du tout. Pas dit ça du tout. C'était Marie seule qui devait recevoir le message de l'ange. Il fallait l'Immaculée. Il fallait celle qui était totalement consacrée à Dieu dans une pureté absolue. C'était elle qui devait recevoir le message et qui devait recevoir le secret. Tandis qu'ici, il faut que ce soit les deux. Mais on voit que Sarah n'est pas à l'unisson d'Abraham. Il y a là quelque chose de très important pour nous. Hein. Nous essaierons progressivement la théologie des annonciations. Hein. Essayer de saisir, comme dit saint Augustin, parce que saint Augustin nous donne toutes les clés d'une théologie biblique. Les leitmotifs de l'Esprit-Saint. Puisque quand on dit que l'Écriture est une grande musique, une musique merveilleuse, et qu'à travers cette musique, on doit saisir les leitmotifs. Alors on doit saisir les grands leitmotifs, la femme. Ça c'est sûr, c'est un leitmotif qui prend toute sa force, puisque la dernière révélation regarde la femme. Femme, voilà ton fils. La dernière révélation de Jésus par rapport à l'humanité. Il regarde l'homme, il regarde Jean en disant « Voilà ta mère ». Donc il met l'ordre inverse, vous voyez. Il y a un ordre inverse, c'est que l'homme est mis en référence avec la femme. Alors que normalement, la femme est mise en référence avec l'homme, selon le point de départ de la création. Et dans l'ordre surnaturel, il y a l'inverse. Le dernier moment de la révélation, c'est ça. Comme un très grand secret qui reste caché et qui fait que toute la créature est en référence avec Marie. Que nous le voulions, que nous ne voulions pas, c'est un fait. Et on verra ça au ciel. Mais ça nous est déjà révélé. Et alors c'est intéressant de voir ici, au contraire, vous voyez combien Abraham prend une place importante et le rire de Sarah met en lumière, j'allais dire, met en lumière la foi d'Abraham. C'est pas à cause de ça que Sarah rit, mais de fait, le rire de Sarah, qui est un petit scepticisme, une manière de se mettre à l'écart, en dehors, de ne pas s'engager, le sourire de Sarah, eh bien, de fait, montre d'une façon merveilleuse l'adhésion de foi d'Abraham et la grandeur de la foi d'Abraham. C'est comme la négation qui met en lumière l'affirmation. Alors ici, c'est une négation partielle. Sarah n'a pas dit non. Non, non, Valérie, ça lui donne le temps de réfléchir. Je vois, le temps de réfléchir, comme ça, pour savoir exactement ce qu'on peut faire. Elle ne sait pas très bien. Elle est gênée, elle a peur. Oui. Alors, voyez, la peur, là aussi, c'est intéressant de regarder l'élément de la peur. Ça, un grand leitmotiv aussi, par rapport à une anthropologie biblique. L'élément de la peur. Vous voyez, dès que l'homme a péché, il a peur. Il a peur de la présence de Dieu. Adam a peur de la présence de Dieu. Il entend les pas de Dieu, il se cache. Ici, Sarah a peur. Alors que de fait, on annonce quelque chose de merveilleux. Pour Sarah comme pour Abraham, on annonce quelque chose de merveilleux pour les hommes. Quelque chose entièrement positif. C'est entièrement positif. Il s'agit d'une descendance à Abraham. Eh bien, Sarah a peur. Elle a peur. C'est curieux. On a peur devant des bénédictions de Dieu. On a peur. Parce qu'on sait que ça nous engagera plus. Et Sarah a peur d'être engagée plus. Ça va l'engager beaucoup, ça, Sarah, d'être la mère d'Isaac. Et Marie aussi, d'une certaine manière, a peur. Alors, ce n'est pas la même peur. Vous voyez ? C'est là qu'on peut distinguer, à la suite, avec saint Augustin, les différentes peurs, les différentes craintes. Les craintes chastes et les craintes humaines. Je crois que Sarah, c'est une crainte humaine. Elle a peur. Elle a peur d'un engagement. Tandis qu'en Marie a peur dans l'Annonciation, c'est une crainte chaste. C'est la crainte de faire quelque chose qui ne soit pas totalement la volonté de Dieu. Comment cela peut-il se faire ? C'est la crainte. Marie a peur d'agir par elle-même et donc de ne pas être suffisamment docile vis-à-vis de l'Esprit Saint, vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Il y a deux craintes différentes. C'est éclairant comme à regarder l'une et l'autre, celle de Marie et celle de Sarah. Chapitre 18, verset 16. S'étant levés de là, les hommes regardèrent du côté de Sodome. Alors on les voit qui partent. Abraham allait avec eux pour les reconduire. Très très aimable. Il a compris. Il y a quelque chose de grand. Alors, c'est l'hospitalité, le devoir de l'hospitalité. Alors, c'est très beau, vous voyez, la liturgie de l'hospitalité qui implique une présence trinitaire. C'est la liturgie de l'accueil. On peut dire que c'est la liturgie de l'accueil, ça c'est sûr. C'est la grande liturgie de l'accueil qui est trinitaire et qui prend cette dimension trinitaire. S'étant levé de là, les hommes regardèrent du côté de Sodome. Alors on pourrait dire que cette liturgie trinitaire, cette liturgie sanctifiée par la présence des trois, vous voyez le rôle de la femme par derrière. Hein. Bon, on n'est pas en terre chrétienne. Tandis que la liturgie de l'accueil sera pour nous le mystère de Bethléem. Le mystère de Bethléem, c'est-à-dire la nativité, c'est vraiment le mystère de l'accueil. Il y a l'accueil de Dieu et l'accueil des hommes, des petits bergers qui sont reçus à l'intérieur de la contemplation. Alors là aussi, il serait intéressant de mettre en parallèle ces deux liturgies de l'accueil. S'étant levé de là, les hommes regardèrent du côté de Sodome. Abraham allait avec eux pour les reconduire. Et il avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham doit devenir une nation grande et forte, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre. Car je l'ai distingué, afin qu'il commande à ses fils et à sa maison après lui, d'observer la voie de Yahvé, en pratiquant justice et droit, afin que Yahvé fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit sur lui. Alors c'est extrêmement curieux, cette réflexion. Hein. Ça aussi, c'est de l'anthropomorphisme, c'est évident. Dieu ne réfléchit pas comme ça, n'est-ce pas ? Mais c'est pour essayer que nous comprenions. Alors ça, c'est très important, parce que ça éclaire, vous voyez ? Faisons l'homme à notre image. Ça éclaire cette réflexion de Dieu sur lui-même. Dieu se met à réfléchir sur lui-même. En disant, est-ce que je vais communiquer ça ? Est-ce que c'est le moment propice de dire ça à Abraham ? On vient de lui révéler un grand secret, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux. Pour Abraham, il n'y avait rien de plus de dire qu'il aura un fils de sa descendance. C'est quand même merveilleux, ça. C'était le grand, grand désir d'Abraham. Et alors, immédiatement après, mystère de douleur. Vous voyez, l'enchevêtrement des mystères de joie et des mystères de douleur. Hein, parce que c'est intéressant pour nous, étant donné que nous avons le rosaire. Alors, mystère de joie, mystère de douleur. Et alors, l'enchevêtrement que nous voyons déjà ici, et toujours dans l'ancienne alliance, c'est beaucoup plus descriptif, et donc, pour nous, c'est plus facile à comprendre. Et alors, Dieu hésite. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham doit devenir une nation grande et forte? Vous voyez, on ne dit pas, et c'est curieux, c'est très curieux, on ne dit pas, alors qu'Abraham est devenu mon ami. Normalement, c'est à ses amis qu'on livre ses secrets. Le petit passage que saint Thomas aime de commenter dans l'évangile de saint Jean, c'est à ses amis qu'on donne ses secrets. Et plus l'ami est ami, plus on confie ses secrets. C'est vrai, ça. Pas de secret pour ses amis. Il n'y a pas de secret pour toi. Vous voyez, c'est ce qu'on dira. Et qu'on vous dit. C'est à ses amis qu'on donne ses secrets. Et plus l'ami est ami, plus on confie ses secrets. C'est vrai, ça. Pas de secret pour ses amis. Il n'y a pas de secret pour toi. Vous voyez, c'est ce qu'on dira. Et quand vous dites ça, c'est pour exprimer justement toute la confiance que vous avez en quelqu'un. Je n'ai pas de secret pour toi. Je te dis tout ce que je porte en moi. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham doit devenir une nation grande? Normalement, c'est qu'Abraham étant un ami, c'est à cause de ça que Dieu va révéler ses secrets. Ici, non. On ne dit pas ça. Alors qu'Abraham doit devenir une nation grande et forte, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre. Ce n'est pas le motif, ce n'est pas l'amour, c'est la puissance, c'est la grandeur. Vous voyez, là on touche bien encore l'imperfection de l'alliance. La perfection de l'alliance serait, ce que Jésus le dit, c'est le propre de la nouvelle alliance, c'est qu'étant donné qu'on est en présence d'un amour parfait, tous les secrets sont dits. Jésus le dit textuellement, c'est parce qu'il aime le Père, parce que le Père l'aime, c'est pour ça qu'il lui livre tout ce qu'il fait. C'est à cause de l'amour. Et ça, c'est la raison propre. Tandis qu'ici, vous n'avez pas la raison propre. C'est une raison qui n'est pas encore la révélation plénière, c'est une révélation qui reste imparfaite. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham doit devenir une nation grande et forte? C'est pas un motif, hein, ça c'est très humain. Ça. On livre à des gens puissants ce qu'on va faire pour en faire un allié. Mais c'est pas l'amour. C'est pas la même chose du tout. Alors, voyez l'anthropomorphisme encore qui cache et qui nous fait comprendre que nous ne sommes pas en présence d'une alliance parfaite. Et je crois que ça on peut le dire, c'est qu'en étant en présence d'une alliance qui demeure imparfaite. Abraham est bien l'ami, mais n'est pas l'ami du cœur de Dieu. Il est celui qui prépare. L'ami du cœur de Dieu, ce sera Jésus, ce sera Marie, ce sera Jean. Il avait dit le cri contre Sodome et Gomorre, qu'il est intense, et leur péché, qu'il est grave. Je vais donc descendre et voir si la clameur qui contre eux est venue jusqu'à moi répond à tout ce qu'ils ont fait. Sinon, je le saurai. C'est extraordinaire, ça, si c'est aussi merveilleux. C'est Dieu juge. Hein, c'est Dieu juge, ça. C'est le mystère de Dieu en tant qu'il est juge. Vous voyez, c'est tout à fait autre chose que en face de Moïse, où on voit la grande révélation de la miséricorde. Oui, mettez en parallèle, là aussi, pour comprendre, parce que c'est important de saisir la révélation de Dieu qui est faite à Abraham. Et quel est le Dieu qui se révèle à Abraham? C'est notre Dieu. Mais quels sont les attributs de Dieu? Or ici, c'est très net. C'est le Dieu juge. Alors qu'à Moïse, c'est le Dieu miséricordieux. J'ai entendu le cri de ceux qui étaient sous le joug du Pharaon. J'ai écouté leur misère et je viens. Tandis qu'ici, il a entendu le cri contre Sodome. Le cri contre Sodome, c'est quoi? C'est de montrer qu'il est impossible, vivant à Sodome et Gomorre, de rester des hommes honnêtes. Sodome et Gomorre est un tel lieu de perdition qu'il n'y a pas moyen d'y rester. Alors on crie. C'est dire, venez, venez. Il est temps. Vous savez, c'est dit dans l'Apocalypse, hein, le cri des justes par rapport à toutes les injustices. Hein. On leur dit, attendez, attendez un tout petit peu. Ici, pas du tout. On n'a pas attendu. On est encore dans la loi de l'imperfection. On est encore devant une alliance d'imperfection. Donc une alliance d'attente. Et c'est pour ça que la justice va être plus immédiate. Dans la nouvelle alliance, la miséricorde passe toujours devant. Et c'est pour ça qu'au cri de justice, Dieu dit non. Attendez, attendez. Autrement dit, Dieu réclame plus de patience du chrétien que de son peuple d'Israël. Il réclame une patience plus grande parce que l'amour est donné d'une manière plus explicite. Alors il réclame une plus grande patience. Le cri contre Sodome et Gomorre, qu'il est intense, et leur péché, qu'il est grave. Vous voyez, Dieu qui juge. Je vais donc descendre et voir si la clameur qui, contre eux, est devenue jusqu'à moi, répond à tout ce qu'ils ont fait. C'est très très beau ça. Dieu ne veut pas juger sur ce qu'on lui a dit. Il veut lui-même voir si c'est vrai. Ce que tu dis, est-ce que tu le dis de toi-même ou un autre te l'a dit? Alors quand Dieu juge, il juge en connaissance de cause. Et il ne juge pas en fonction de ce qu'il a entendu. Et ça, c'est aussi très important pour nous. On doit comprendre ce qu'est la justice de Dieu. Je vais donc descendre et voir si la clameur qui contre eux est venue jusqu'à moi répond à tout ce qu'ils ont fait. Sinon, je le saurai. Les hommes repartirent de là et allèrent vers Sodome, tandis que Yahvé se tenait encore devant Abraham. Alors ça, c'est mystérieux. Les hommes repartirent de là et allèrent vers Sodome, tandis que Yahvé se tenait encore devant. Alors, est-ce que ce sont les trois? Oui, c'est de partage qui se fait là. Ça a intrigué tous les pères de l'Église. Je comprends, c'est intriguant. C'est pas commode à comprendre. Vous voyez, si vous essayez de comprendre, hein, si vous voyez bien la suite, la continuité. Hein. Donc, on voit les trois. On le dit bien. Ils sont les trois, ils sont un. Et alors, ici, il y a un discernement qui se fait. Les hommes repartirent. Vous voyez, s'étant levés de là, les hommes regardèrent du côté de Sodome. Alors, qu'est-ce que c'est que ces hommes? Ce sont les trois. S'étant levés de là, les hommes regardèrent du côté de Sodome. Alors, comme si il y avait une séparation qui se faisait entre Yahvé et puis les trois. C'est très mystérieux, ça. Les hommes regardèrent du côté de Sodome. Et ces hommes, Abraham alla avec eux pour les reconduire. Donc c'est bien ceux qui étaient là avant. Donc il y a dans ce moment-là, dans ce passage, quelque chose de mystérieux, qui reste mystérieux. C'est possible, hein, la révélation n'est pas parfaite dans l'ancienne alliance. Et alors on voit cette chose curieuse. Les hommes repartirent de là et allèrent vers Sodome, tandis que Yahvé se tenait encore devant Abraham. Abraham s'avança et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le méchant ?» Abraham a tout de suite compris. Le regard courroucait de Dieu vis-à-vis de Sodome et Gomorre. Il a compris qu'il y avait quelque chose de grave qui allait arriver. Alors, il se met à intercéder. Et vous comprenez pourquoi il y a Lot. Lot est dans Sodome et Gomorre, il ne faut pas oublier. Hein. Il y a un lien entre Abraham et Lot. Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 5 justes au milieu de la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à ce lieu en raison des 50 justes qui s'y trouvent. Alors là, on a plaidoyé. Dans votre prière, ne prenez pas trop ce mode. parce que c'est un mode très particulier, il faut être un brave pour pouvoir faire ça, mais on voit très bien ce que c'est. Hein. C'est extraordinaire, ce marchand d'âge divin qui se fait entre Abraham et Yahvé. Un marchand d'âge. Loin de toi d'agir de cette manière. Faire mourir le juste avec le méchant. Mais c'est indigne de ta justice. De ta justice, tu ne peux pas faire ça quand même. Mêler. Il y a des pions qui font ça. Vous savez, quand on donne des. Quand on est surveillant et qu'il y a une punition générale, alors on a une punition à tout le monde parce qu'il y en a cinq qui ont chahuté. C'est pas bien de faire ça. C'est pas juste de faire ça. C'est pas digne de Dieu. C'est l'action du pion qui a perdu le pédale qui dit ça. Alors à ce moment-là, il fait ça parce que justement, il ne sait plus garder suffisamment de distance. Alors il punit tout le monde. C'est la rafale qui tombe sur tout le monde. C'est indigne de Dieu. Parce que Dieu, quand il est sage, quand il est juste, il est sage. Et donc il y a un discernement dans la justice de Dieu. Et donc il faut qu'il garde ce discernement. Et alors Abraham plaide la sagesse de Dieu. C'est extraordinaire ça. C'est Abraham qui plaide la sagesse de Dieu. Il montre que Dieu ne peut pas agir comme ça parce qu'il est sage. Il n'agit pas. Sa justice n'est pas comme la justice des hommes. C'est une justice qui implique un discernement. Les colères de Dieu sont des colères saintes. Et donc les colères de Dieu impliquent un discernement. Tandis que les colères des hommes sont des colères passionnelles. Et parce que ce sont des colères passionnelles, elles n'impliquent plus de discernement. Et on punit tout le monde de la même façon. C'est indigne. Loin de toi d'agir de cette manière, faire mourir le juste avec le méchant, de sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, ne pratiquerait-il pas le droit ? C'est très beau, c'est magnifique ça, n'est-ce pas ? C'est ce plaidoyer d'Abraham au point de vue de la justice. Il avait dit, si je trouve à Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à tout ce lieu à cause d'eux. Abraham prit la parole et dit, il a réfléchi entre deux, 50 c'est un peu beaucoup, hein. Il y a des chances qu'on n'y trouve pas, alors il faut y aller. Voici que j'ose parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Plus il est audacieux, plus il est poussière et cendre, hein, faut pas l'oublier. Peut-être des 50 justes en manque-t-il 5. Vous voyez comment il va à rebours, hein ? Donc ça, c'est le calcul merveilleux. Vas-tu pour ces 5 détruire toute ta ville ? Comme ça qu'on fait baisser le prix d'un tapis. Hein ? On voit très très bien. Et alors il applique ça à Dieu dans une perspective de sagesse divine. Vas-tu pour ces 5 détruire toute la ville ? Il dit, je ne détruirai pas si j'y trouve les 45. Mais Dieu compte bien. Hein. Là, il ne perd pas le nord. Hein. Alors ça, c'est bien. Il y a le calcul différent de l'un par rapport à l'autre. C'est merveilleux que ça soit fait passe partie de la révélation. Vous voyez, cette espèce de dialogue entre Abraham, et ceci, c'est pour montrer la sagesse d'Abraham. Hein. C'est pour montrer la sagesse d'Abraham. La sagesse de Dieu, elle est révélée, c'est bien évident. Et que la sagesse d'Abraham ose tenir compte en face de Dieu, en face de la justice de Dieu. Il dit, je ne détruirai pas si j'y trouve 45. Abraham reprit encore la parole et dit, peut-être s'il en trouvera-t-il 40. Donc il reprend le jeu de l'autre main pour être plus proche de Dieu, puisque c'est Dieu qui a dit 45, donc il reprend 40. Il dit, je ne le ferai pas à cause des 40. Abraham dit, daigne mon Seigneur, ne pas se mettre en colère. On voit la révérence. Hein, il a fait ça avec une révérence énorme, la liturgie d'Abraham ici. Si je parle, peut-être s'y trouvera-t-il 30. Il dit, je ne le ferai pas si j'en trouve 30. Alors, il y a un petit peu d'agacement hein, ici, de la part de Dieu. C'est plus rapide. Ça se voit. Abraham dit, voici que j'ose parler à mon Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20. Elle dit, je ne détruirai pas à cause des 20. Abraham dit, daigne mon Seigneur, ne pas se mettre en colère. Si je parle encore une fois, peut-être s'y trouvera-t-il 10. Elle dit, je ne détruirai pas à cause des 10. Yahvé s'en alla. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Donc là, c'est très beau. après la grande vision des trois, l'audace d'Abraham vis-à-vis de la justice. Il ne faut pas l'oublier. Abraham est entré en intimité avec Dieu. C'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a quelque chose, vous voyez, quelque chose de la vie. Ce n'est pas en plénitude, mais quand même, hein, Dieu l'annonce. Puis il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ça, c'est l'attitude de la vie. Cependant, ce n'est pas la vie parfaite. C'est pas la vie parfaite. Puisque le motif, ce n'est pas parce que je l'aime. Mais il deviendra une grande nation. Donc, c'est encore Dieu qui va faire de lui une grande nation. Et alors, à partir de là, on comprend que la prière change. Parce qu'on ne peut pas, quand on prie un ami, prier de la même manière que quand on prie quelqu'un qui est loin de nous. Alors, il y a un intérêt commun. Et c'est ça toute l'astuce. L'astuce divine, d'abord. C'est un intérêt commun. On va prendre l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est de faire que Dieu lui-même punisse justement, selon un ordre de sagesse, c'est ça l'intérêt de Dieu. Et donc tu ne peux pas quand même, pour 5 ans, détruire tout le monde. C'est un guide de Dieu, ça. Tout le monde dira quoi? C'est impossible. Alors, ça dégringole jusqu'à 10. Mais l'intérêt de Dieu va jusque-là. Il a cette espèce de sens de Dieu. Alors je crois que c'est ça, c'est pour montrer la prière de demande liée à la contemplation. La prière de demande liée à la contemplation a comme une espèce d'efficacité infiniment plus grande. Parce que grâce à la contemplation, je suis un avec Dieu. Je suis du côté de Dieu. Et je regarde avec Dieu. Alors je peux prendre des intérêts de Dieu. Et la prière de demande alors prend une tonalité tout à fait différente. Ça c'est très très beau comme manière de considérer ce qu'est la prière de demande enveloppée de la contemplation, prise dans la contemplation. Parce que c'est quand même, là encore, faites une fiche, hein, prière de demande. C'est quand même la grande prière de demande. On verra toutes les prières de demande pour faire la théologie de la prière de demande. C'est un des grands passages. Et ce grand passage de la prière de demande est lié à la contemplation et ne se comprend qu'à l'intérieur de la contemplation.